Et nous revoilà pour une émission collective du projet Saint-Marcomde. Saint-Marcomde, c'est la possibilité pour tous les jeunes qui le désirent de s'exprimer en toute liberté. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à Saint-Marcomde.
Bonjour à tous.
Faut rêver, bien
sûr. Bonjour à toutes.
Faut toujours rêver.
Mais en fait, on vit dans un monde où si t'as pas d'argent, t'as rien.
Cœur, cœur, paillettes.
Quand tu rêves, peut-être tu réaliseras tes rêves.
Bonjour à tous et bienvenue sur les ondes de Saint-Marcomde, le projet radiophonique de l'AMO Saint-Marcomde. Vous êtes en co-animation avec Joséphine et Clara.
Bonjour à tous.
Et nous sommes ravis d'accueillir aujourd'hui une classe de 3e de l'Institut Enfant Jésus pour enregistrer cette émission avec nous autour de différents sujets. Et avant de commencer, j'ai proposé qu'on fasse un petit tour de table pour se présenter à nos auditeurs. Et à ma gauche, j'ai...
Réfia. Sabrine.
Luana.
BSF.80
AMS.59
Chelsea
Madi
Tobias.
Bienvenue à Saint-Marcomde. Vous avez voulu parler de plusieurs sujets aujourd'hui, notamment des réseaux sociaux. Et une première question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce que vous êtes tous sur les réseaux sociaux et à quoi ça vous sert les réseaux sociaux aujourd'hui? Quel usage vous en faites?
Oui, moi j'ai tous les réseaux sociaux. Et en mode, les réseaux sociaux, ça... les réseaux sociaux, ça me distrait, par exemple, aller sur TikTok, etc. Parler avec nos proches de loin, et voilà.
Et pour les autres?
Moi, je suis sur les réseaux sociaux, ça me divertit. Et je peux communiquer avec ma famille, mes amis et tout. Et voilà, c'est tout.
Donc un usage pour le divertissement, j'entends pour l'instant. Est-ce qu'il y a d'autres usages que vous en faites, à part le divertissement et communiquer avec la famille?
Avoir des informations.
Avoir des informations, ouais. Madi, tu veux réagir?
Mais les informations sur les réseaux ne sont pas toujours justes.
Ah. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça, les autres?
Oui.
Ouais. Et comment vous faites alors du coup pour filtrer les informations sur les réseaux?
Moi, pour savoir si une information elle est vraie, je vais voir sur un site fiable. C'est genre en mode, par exemple, la RTBF et tout. Mm-hmm. Je vais voir ça là-bas. S'il n'y a pas, c'est que c'est faux.
Ouais. Et vous vérifiez à chaque fois vos informations, une fois que ça passe sur les réseaux, quand vous les voyez sur les réseaux?
Non, pas tout le temps, parce que parfois on se dit... parfois dans notre tête, c'est logique que c'est pas vrai. Parce que le nombre de fois où TikTok nous indique qu'il n'y avait pas école, je vous jure qu'on serait parti deux fois sur l'année.
TikTok vous annonce qu'il n'y a pas école?
Ouais.
Ok, je ne savais pas.
Et comment vous choisissez votre contenu sur les réseaux?
En mode... j'ai pas compris, en mode...
Comment vous choisissez ce que vous regardez?
Mais par exemple,
vous regardez sur les réseaux, oui.
Par exemple, sur TikTok, c'est le plus, par exemple, le plus que tu likes des vidéos, ça revient le même style, on va dire. En mode, si tu likes que des trucs par rapport à cuisine, il y aura plus de trucs de cuisine. Je sais pas expliquer, mais c'est un peu ça.
Mm-hmm. Ouais. C'est pareil pour les autres?
Oui.
Ouais. Et est-ce que vous êtes toujours en... Comment expliquer ça? Est-ce que vous êtes toujours en phase avec le contenu que vous avez sur les réseaux?
Non.
Non.
Par exemple, des fois, il y a par exemple TikTok. En mode, t'es dans une phase en mode avec des trucs de couple, etc. Et quand t'es plus en couple, il y a que des trucs de couple. Donc ça veut dire ça. Tu te rappelles de ça et tout. Du coup, t'es mal.
Est-ce que des fois, les réseaux, ça vous donne pas des sentiments d'angoisse, de stress?
Dans quel sens?
Par rapport à ce contenu que vous ne choisissez pas toujours?
Si, parfois, par exemple sur TikTok, on va avoir des vidéos qui vont parler, d'angoisse, etc. Et il y en aura de plus en plus, et du coup, ça va jouer sur le mental, on va dire. Mm-hmm.
Ouais. Vous ressentez ça aussi, les autres, ou bien...
Oui.
Ouais. Et comment vous dealez avec ça? Comment vous gérez ça, vous, au quotidien?
Moi, par exemple, sur TikTok, etc., ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à liker des trucs aléatoires. En mode de... Et après, le contenu là, d'amour, c'est parti. Et du coup, voilà.
Est-ce que vous pourriez vivre sans réseaux sociaux?
Non.
Non.
Non. Pourquoi? Non.
En fait, je pense qu'on s'est tellement habitué à ça que ça nous paraît logique de les utiliser tout le temps.
Mm-hmm. En mode de... Normalement, c'est pas très bon et tout. Parce que, en mode principalement les gens qui font du contenu, etc. Par exemple sur TikTok et tout, ou sur Insta, n'importe. Bah, le nombre de commentaires qui sont pas bien et tout, bah, ça les stresse et tout. Bah, ils sont tristes, etc. Mm-hmm. Or que si, par exemple, on va dire, ils nous disent, ouais, aujourd'hui, vous n'avez plus de réseaux sociaux, bah, je pense qu'on va tous s'ennuyer, on ne va pas savoir quoi faire, on va dire.
Ouais. Vous êtes tous d'accord avec ça, les autres ?
Oui, oui.
Ouais.
Oui.
Ça fait partie intégrante de vos vies aujourd'hui, du coup, les réseaux ?
Oui.
Oui.
Oui. Ok. Et je vais vous demander aussi, parce qu'on avait parlé à un moment donné aussi, pour vous, quelles seraient les dérives des réseaux ? Je crois que tu en as déjà dit un peu. Mais quelles pourraient être les dérives sur les réseaux sociaux, en fait ? Les risques, les dangers auxquels vous pourriez être exposé ?
Bah, par exemple, les gens qui font du contenu, bah, y a de plus en plus de gens qui veulent se suicider à cause des commentaires qui sont négatifs.
Ah oui.
Et voilà.
Mm-hmm. Vous sentez ça comme ça aussi, les autres ? Est-ce que vous voyez d'autres risques qui sont liés aux réseaux sociaux ? Donc toi, tu parles de harcèlement, si je comprends bien.
Oui, oui.
C'est ça ?
La déception, enfin la déprime. Genre en mode, à force d'avoir des commentaires négatifs, le type qui fait le contenu, il peut arrêter tout ce qu'il fait. Enfin, il peut arrêter tout ce qu'il aimait bien de faire.
Mm-hmm.
Et voilà, c'est tout.
Est-ce que vous postez du contenu aussi sur les réseaux ?
Non.
Non.
Non ?
En mode... Ouais, mais en mode, c'est privé. Donc, ça veut dire... Enfin, des fois, je mets mon compte en privé, des fois en public. Mais il n'y a pas de... Genre, c'est juste des stories normales, en mode...
Mm-hmm.
Voilà.
Non.
Quel pourrait être le danger de poster du contenu en public ?
Ben, en fait, c'est pas que c'est un danger, mais... Je sais pas expliquer. Par exemple, quand t'es en public, etc., par exemple, dans la vie de tous les jours et tout, des gens qui veulent te faire tourner et tout, ils peuvent prendre des photos de ton compte qui est en public et du coup faire tourner ta tête et tout et dire ouais, celle-là, c'est une pute, etc. Et les gens qui sont. Les gens, ils vont aller dans ton compte qui est public et commencer à voir tes stories, etc. et te DM par là. Alors que si t'es en privé, etc., bah, les gens, ils vont se dire ouais, c'est un peu bizarre et tout.
Donc le privé, c'est une manière de se protéger.
Oui.
Est-ce que vous faites tout ça ?
Oui.
Ouais. Ouais. Donc vous faites tous aussi attention au contenu que vous postez sur les réseaux.
Oui.
Vous avez conscience de ce risque-là.
Oui. Mm-hmm. C'est une manière aussi d'être discrète, on va dire.
Ouais. Est-ce que vous connaissez l'expression tribunal médiatique ?
Non.
Non.
Vous n'avez jamais entendu parler de ça ?
Non.
Qu'est-ce que ça pourrait évoquer pour vous, le tribunal médiatique ? Qu'est-ce qu'on entend dans le tribunal médiatique ?
C'est pas en mode un tribunal par rapport aux médias, etc.
Ouais. Un tribunal, qu'est-ce que ça vous évoque ?
Bah, un jugement, on va dire.
Un jugement. Et médiatique,
c'est qui concerne les médias, les réseaux, etc.
Alors, qu'est-ce que ça pourrait, selon vous, un tribunal, l'expression tribunal médiatique, qu'est-ce que ça pourrait désigner, selon vous ?
Bah, un jugement entre la victime et celui-là qui a dit des trucs méchants, on va dire. Enfin, je sais pas comment on dit à la victime et le coupable, on va dire.
Mm-hmm. En fait, tribunal médiatique, ça désigne ce que dont vous avez parlé, en fait, c'est comment les médias, en fait, peuvent jouer un rôle de juge par rapport à du contenu, des choses qui sont postées. Est-ce que vous avez déjà vu ces phénomènes sur les réseaux où une personne est exposée sur les réseaux, ou bien en tout cas à la télévision pour X fait, et sur les réseaux sociaux, mais sur sa page, il y a énormément de commentaires, comme vous disiez, des commentaires négatifs, des critiques, des insultes.
Oui. Et par exemple, l'autre fois qu'on était en train de parler, j'ai déjà parlé sur le fait d'une fille qui s'appelle Aïcha sur TikTok. Et ben, du coup, les gens, ils ont vu la vidéo qui a été postée sur Snap par le type, du coup le coupable, on va dire.
Mm-hmm.
Et ben, du coup, c'est une vidéo où, je peux dire, bah, où elle suce le type. Et du coup, bah voilà. Et du coup, bah tous ceux qui suivent le type, bah ils ont tous vu la vidéo, que ce soit tout le monde, on va dire. Et surtout, bah dans les vidéos de Aïcha, la fille, bah il y a eu que des commentaires où les gens justement ils jugeaient en mode oui, elle c'est une suceuse et tout. Or qu'ils savaient pas vraiment l'histoire au complet parce qu'elle s'était jamais Elle n'est jamais venue en public expliquer la situation, ni comme elle, ni comme le type, ils n'ont jamais parlé sur ça. Mm-hmm. Puis à un moment donné, il y a quelques jours, elle a fait un TikTok en expliquant tout. Et voilà, elle a dit que en mode, le type l'a rendue grave amoureuse et tout, elle a fait ça par amour, on va dire. Et voilà, et aussi le type aussi, il a fait une vidéo en s'expliquant, etc. Et du coup, les gens sont un peu mitigés, on va dire. Ouais.
C'est dur, hein, ce que tu as.
Est-ce que c'est aux autres de juger, en fait,
Sur cette fille ? Non, parce que c'est leur vie privée.
Non, parce que c'est leur vie privée et ça ne le regarde pas. Genre, c'est entre les deux personnes.
Mm-hmm. Et ce n'est pas à nous de juger. Même si, là, on est en train de dire que ce n'est pas à nous de juger. Hein, mais nous-mêmes, on juge. Genre, ça ne sert à rien de dire qu'on ne juge pas parce qu'on est en train de juger. Du coup, voilà.
Mais ça pose la question pour moi aussi du harcèlement. Finalement, on voulait parler du harcèlement aussi. Et on va revenir sur le harcèlement, mais avant ça, on va faire une courte pause musicale. Parce qu'on a déjà beaucoup de temps de parole. Et on va lancer la première chanson, Merveille, Citadelle.
Citadelle, mais ma vie n'est toujours pas belle. À la citadelle, je serai beau que quand l'argent m'appelle. Ils m'ont laissé délaisser. Problème dans ma tête, les premiers à dire que j'ai géré. Dans ce qu'ils m'ont négligé, dans ce qu'ils m'ont négligé, dans ce qu'ils m'ont négligé. Séparer son bando. Et si j'ai même mis moi au dos, j'essaie de faire comme les autres. Mais la nuit, je peux pas d'autre. Trop de problèmes dans ma tête, y'en a beaucoup, ils m'en veulent. Problèmes dans ma tête, y'en a beaucoup, ils m'en veulent. Je t'aime pas et tatalala. Je t'aime pas et tatalala. Donne-moi mon cœur, je peux pas. Je t'aime pas et tatalala. Même si ça fait mal, tous les jours je demande à Dieu d'avancer tout droit. Oh là là là, on fait avec, hein. On fait avec, hein. Trop de problèmes dans ma tête, je sais même pas qu'est-ce que je dois faire. Y'en a beaucoup, ils m'en veulent, mais c'est même pas ce que je dois faire. Trop de problèmes dans ma tête, je sais même pas qu'est-ce que je dois faire. Y'en a beaucoup, ils m'en veulent, mais c'est même pas ce que je dois faire.
On est de retour après cette première partie, cette petite pause musicale. Et on parlait juste avant des réseaux sociaux et du harcèlement, du phénomène de harcèlement aussi sur les réseaux sociaux. Et moi, je voulais vous demander, est-ce que selon vous, les réseaux sociaux, ça aggrave le phénomène de harcèlement ?
Oui. En mode, je pense que le harcèlement, il est plus souvent sur les réseaux que dans la réalité, on va dire. Mm-hmm. Parce que sur les réseaux, c'est plus facile de harceler quelqu'un qu'en vrai. Par exemple, quand tu es sur les réseaux, tu peux faire un compte fake, on va dire, où on met rien, juste une photo de n'importe, et aller insulter tout le monde et dire des trucs pas bien sur des vidéos, etc. Et du coup, la personne, elle va recevoir des commentaires négatifs et ça peut empirer la situation, etc.
Mm-hmm. Oui, il y a aussi, en étant influenceur, ils mettent souvent des choses publiques. Et du coup, les gens qui les suivent, ils jugent et du coup souvent ça ramène au harcèlement.
Mmh. Pourquoi on harcèle finalement ? Est-ce que vous avez une idée, une opinion par rapport à ça ?
Pour moi c'est plutôt pour se sentir supérieur aux autres, pour se sentir plus fort, plus supérieur, quoi. Mm-hmm.
Supérieur aux autres.
Ouais, se sentir supérieur, plus intelligent et tout. Se montrer c'est qui gère. Enfin, ouais, c'est qui le plus fort.
Mm-hmm. Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez, ce que dit Tobias? C'est une manière de se placer au-dessus des autres, finalement, le harcèlement.
Oui.
C'est
ça.
C'est aussi une manière de se mettre en valeur.
Et comment on peut se mettre en valeur autrement?
Bah, en rabaissant les gens. Moi, je pense qu'on ne doit pas se mettre en valeur, on va dire. Genre, on est tous les mêmes. Enfin, en mode, il n'y a pas de qui est plus fort, qui est pas fort, il n'y a pas de ça. Donc, je pense que ceux qui font ça, ils n'ont pas de vie. Donc, voilà.
Est-ce que c'est mauvais de se mettre en valeur?
Non.
C'est pas mauvais, mais en mode, il y a des formes de comment se mettre en valeur, t'as vu? Genre, tu vas pas aller chez la personne et dire, ouais, t'es je sais pas moi, rabaisser des gens et tout et te mettre en valeur, ça sert à rien. Donc.
Est-ce que vous pensez qu'il y a des personnes qui sont plus, elles sont plus souvent victimes ou bien plus sujettes au harcèlement que d'autres?
Oui. En fait, c'est plus par rapport aux personnes handicapées ou des trucs comme ça. Ils vont plus subir du harcèlement que des gens normaux. Mm-hmm. Pourquoi, je sais pas, mais voilà.
Ouais, les gens, ils aiment trop rigoler sur les handicapés. Mais, mais vraiment, par exemple, sur TikTok et tout, s'il y a, je sais pas, un handicapé qui va poster du contenu, parce qu'il y a des handicapés où leur famille les filme ou des trucs comme ça, mm-hmm. et ben du coup, les gens, ils aiment bien critiquer ou rigoler dans les commentaires. Et voilà.
Et pourquoi, selon vous? Est-ce que c'est la différence qui fait qu'on a envie de se moquer? Est-ce que c'est
déjà les personnes handicapées, ils savent pas comment, ils peuvent pas se défendre, on va dire. Ça veut dire on va rigoler sur eux, ils vont pas venir sur les réseaux et dire se défendre et tout, ils peuvent pas parce que justement c'est des gens handicapés. Donc ça veut dire la plupart des gens, ils aiment bien harceler des gens et les gens ils peuvent pas, les gens qui savent pas se défendre, on va dire. Et c'est comme dans la vie de tous les jours, même des gens dans l'école, etc., quand ils vont faire des disputes et tout, ils vont toujours chercher celui-là qui est le moins fort, on va dire, pour pouvoir victimiser la personne. Ouais. Parce qu'ils savent que la personne ne sait pas se défendre, donc ça veut dire qu'il y aura du harcèlement et la personne va juste se taire.
Et comment on peut éviter ça?
En fait, on ne peut pas trop éviter, c'est comme ça. Mais en mode, on peut chercher aller chez quelqu'un et en parler, mais... Voilà, il y aura toujours des menaces, toujours des trucs par derrière. Donc, on va jamais arrêter ça, on va dire.
Est-ce qu'il y a des formes de harcèlement pour vous qui sont plus graves que d'autres?
Ouais.
Oui. Lesquelles, par exemple?
Pour moi, il y a le racisme. Mm-hmm. Il y a aussi la discrimination. Après, pour moi, c'est les deux choses les plus importantes pour moi dans le harcèlement.
Mmh. Des formes de discrimination, du coup.
Ouais.
Ouais. Et pour les autres?
Moi aussi, c'est par exemple mettre tout le monde dans le même paquet, on va dire. En mode de, je sais pas, en mode de les préjugés et tout ça, les stéréotypes, les trucs comme ça.
Des trucs qui sont devenus trop banals. Ils ont banalisé ça.
Qu'est-ce qu'ils ont banalisé?
Le fait d'avoir beaucoup de stéréotypes sur les gens. Eh ben plus les gens ils vont parler de ça, plus il y en a d'autres qui vont croire. Mm-hmm. Et ça va jamais s'arrêter.
Mm-hmm. Vous trouvez les autres que la discrimination... parce que là, on parle de plus de discrimination raciale, du coup, quand tu parles de stéréotypes, ou c'est... parce que, bon, stéréotypes, ça peut toucher différentes choses, en fait, hein, beaucoup de choses. Vous trouvez que c'est banalisé, la discrimination de nos jours?
Ouais. Et aussi, par exemple, le racisme. Le racisme, c'est trop pris pour des blagues, on va dire. Genre en mode, t'as des potes et tout, et tu vas commencer à faire du racisme avec. Et tu vas dire, ouais, c'est pour rigoler, mais à un moment donné, c'est pas drôle. Parce que la personne, on sait pas si elle le prend pour rigoler vraiment ou pas. Mm-hmm. Et même, je pense, c'est le truc, ça se rigole pas. Genre, on est tous comme ça, pourquoi commencer à dire des trucs, etc. Genre, le racisme, il faut vraiment que ça s'arrête, on va dire.
Et comment on peut se protéger contre ça? Comment on peut se protéger contre le harcèlement?
Oui, Mathilde. En soi, beaucoup de personnes vont dire « va en parler à quelqu'un, va chez la police » ou des trucs comme ça. Mais la plupart des affaires comme ça, chez la police, elles sont classées sans suite. Mais vraiment, 80% des cas, ils sont classés sans suite.
Et pourquoi, selon vous? Comment ça se fait que ça se passe comme ça? Parce que la police est censée normalement recevoir des plaintes et ouvrir des enquêtes. Comment ça se fait que c'est classé sans suite?
Bah, c'est banalisé, justement. Genre, pour les polices, ça, c'est pas important. Genre, pour eux, ce qui c'est important, on va dire, c'est aller, par exemple, je sais pas, quelqu'un est mort ou des trucs comme ça, ils vont directement. Mais alors que si c'est des portées plainte, par exemple, sur le racisme, que ce soit du racisme ou du harcèlement aussi, parce que les gens qui font des menaces aussi, c'est... Enfin, on peut aller. Mais c'est, comme elle a dit, bah, c'est sans suite. Genre, ils vont pas aller et... ben, il n'y aura pas de conséquences, on va dire.
Même les affaires les plus graves, comme le viol, c'est banalisé aussi chez la police. Donc,
pourtant, les conséquences du harcèlement, et notamment du viol aussi, peuvent être très graves. Alors pourquoi est-ce que ce serait minimisé?
Mais en fait, la police de maintenant, je trouve qu'ils sont là juste pour l'argent. Donc, ils vont faire leur boulot et après, ils vont partir. Enfin, c'est pas comme avant, en fait.
Ils servent à rien, en fait, juste simplement. Enfin, en mode, genre, peut-être que dans des cas, etc., ils vont servir. En fait, il y en a, on peut pas généraliser, parce que peut-être il y a des policiers et tout qui font vraiment leur boulot et tout. Mais en global, j'ai jamais vu quelque chose en mode tu vas aller à la police et tu dis, ouais, il y a, je sais pas, porter plainte sur du racisme et que la police, elle se déplace pour ça. Genre, moi, j'ai jamais entendu parler de ça. Ça veut dire, c'est trop, genre, ça sert à rien, on va dire.
Est-ce que vous auriez un message quoi, à faire passer, vous, à la police? Si vous pouviez faire passer un message à des policiers, qu'est-ce que vous leur diriez concernant ces questions-là?
Faites leur boulot. Faites leur boulot, pas que pour l'argent, mais faites, parce qu'il y a des gens qui se sentent vraiment pas bien par rapport au racisme ou au viol. Viol, c'est vraiment un truc de grave. Ça veut dire, le viol des polices qui ne se déplacent pas pour ça, c'est parce que vraiment... genre ils s'en foutent des jeunes ou des adultes, n'importe. Donc voilà.
Mais même maintenant, quand il y a des bagarres ou quoi, la police elle arrive 10 ans après. Ouais. Genre par exemple un jour j'étais avec une amie à Etterbeek et c'est parti juste d'une histoire de puff que 4 personnes lui ont volé. Et de là, ils se sont retrouvés à 10, à 15. On a appelé 3 fois la police et ils sont arrivés que quand on leur a dit qu'ils ont commencé, ils ont voulu l'étouffer, etc. Sinon, avant ça, ils ne sont pas venus.
Vous trouvez que la police devrait être plus proactive, en fait?
Ouais.
Pas attendre que en fait, les choses se passent ou soient trop graves que pour agir.
Oui, je pense que quand ils sont... je sais pas, genre quand on les appelle, etc., ils prennent tout leur temps. Or que... Peut-être qu'il y a des trucs, je sais pas, par exemple l'histoire là de bagarre. À tout moment, la personne s'était fait étouffer et après, bah, je sais pas, on dirait ils ont pas une conscience. On va dire, si j'y vais pas directement, il va se passer ça, ça, ça. Genre, alors que si ça se passe vraiment, je sais pas, ils n'auront pas en mode, ils seront pas tristes ou des trucs comme ça en mode de regretter d'avoir pas fait vite, etc. Genre, je sais pas, genre.
En fait, pour moi, la police, ils sont là que quand c'est des choses vraiment pour eux. Pour eux, ça va être grave. Si c'est genre en mode, c'est pas pour eux, ça va pas être grave. Ils vont prendre leur temps. Par exemple, les histoires de drogue, tout ça. Quand ça parle de ça, eux, ils sont là, ils sont actifs et tout. Mais quand c'est une histoire de bagarre, de viol, de racisme, ou je sais pas quoi, eux, ils vont prendre leur temps. Ils vont jamais aller loin dans l'enquête.
Et après, il y a aussi certains policiers qui, par exemple, tu vas aller porter plainte pour viol, ils vont dire, ouais, comment t'étais habillé? Alors que la façon de t'habiller, ben, ça changerait, en fait.
Il y a aussi, par exemple, une de mes fréquentations a vécu le viol et il a été porté plainte à la police. Et on lui a sorti, peut-être elle cherchait son orientation. Et du coup, elle a essayé.
Ah ouais.
Et du coup, ben, la plainte n'a pas été... a été sans suite.
C'est dur, hein, ce que vous dites là. Est-ce qu'on ne dit pas qu'il y aurait peut-être besoin de plus de formation des policiers aussi par rapport aux questions de harcèlement, par rapport aux questions de viol?
Ben moi, je pense ils font genre que à leur tête. En mode, si la personne a dit « ouais, j'étais en mini-jupe et tout », pour eux, c'est à cause de ça. Genre en mode « ouais, elle veut juste se montrer, donc l'homme, c'est normal, il a faim, on va dire, et qu'il veut ». Or que non, ça veut rien dire. Nous, les femmes, on peut s'habiller comme on veut. Je vois pas. Genre, si le. En fait, viol, il n'y a aucune explication. Il n'y a aucune explication, ça veut dire qu'il n'y a pas à chercher plus loin. C'est un viol, c'est un viol. Il n'y a pas de comment elle a été habillée, de quelle forme, de comment, non. C'est un viol et point final. Et aussi, comme Tobias l'a dit, par rapport à la drogue et tout, ils veulent juste, genre, je sais pas, juste emprisonner les gens et tout. Mmh. Or que c'est du racisme, il faut aller loin, il faut chercher, il faut travailler vraiment pour chercher qui a fait quoi, etc. Or que la drogue, ils vont juste tous les contrôler, tous les mettre à l'intérieur, et etc. Genre, eux, ils veulent juste, mais, je sais pas, des choses comme ça, on va dire.
La plupart des cas, c'est plus les dealers qui sont en prison que des violeurs et des harceleurs, en fait. Mmh. Genre, on dirait pour eux, mettre un dealer en prison, c'est une victoire, alors qu'il y a beaucoup plus grave que ça.
Vous avez le sentiment qu'il y a des faits qui sont criminalisés, hautement criminalisés, alors qu'ils ne sont pas si graves que ça, et d'autres choses qui ne sont pas assez prises en compte.
Ouais, clairement.
Bah, ok.
Parce que, on va dire, genre en mode, un dealer, un vendeur, il va prendre plus qu'un violeur.
Ah, c'est comme ça que vous ressentez. Ok. Ben, on va prendre une deuxième pause là-dessus. Hein. Et on va lancer une chanson de Tobias. Une musique originale de Tobias.
Balance la prod. Mais des fois tu me manques, c'est vrai. Mais à cause de l'amour, je suis parti. En vrai, on s'est promis des choses, mais ça s'est pas fait. Je me concentre que sur moi, je suis plus vert. L'amour m'a dégoûté, mais je verse pas une seule goutte d'eau. Je pensais rester à ses côtés, mais je me suis planté tout comme le couteau. Mon cœur est devenu trop noir pour que je m'attache. Mes sentiments sont même plus sincères, je commence à me faire chier. Je suis devenu trop méchant, elle a perdu toutes ses chances. Pour l'instant, je vais rester solo de mon côté, le temps que je change. Ah, elle me veut, mais moi, je suis trop indécis. Je savais pas qu'elle pouvait faire des faces comme ça. Attirée par les autres, elle me passe au-dessus. Je fais pas de toi, mais il faut me laisser. Je crois plus en l'amour. Avant, je m'étais rapproché de la mort. Malheureux, je voulais même plus dormir. Je fais semblant d'être bien, mais je suis plongé dans le noir. Non, je fais pas le gars broke. Sur les sorties, j'ai fait un break. Mon cœur est plus dur qu'une brique. Pourquoi avec toi, j'ai fait le heartbreak? Elle me dit, s'il te plaît, papa, mais c'est trop tard. J'ai déjà coupé les ponts. Je ferai pas le premier pas. Maintenant, fous-moi la paix. Si c'est comme ça, mais c'est tant pis. Je crois plus en l'amour, avant je m'étais rapproché de la mort. Malheureux, je voulais même plus dormir. Je sens l'autre de mes cheveux plongés dans le noir. Je ne crois plus en l'amour, avant je m'étais rapproché de la mort. Malheureux, je voulais même plus dormir. Je sens l'autre de mes cheveux plongés dans le noir.
Voilà pour cette troisième partie d'émission. Donc juste avant la pause, tout d'abord merci à Tobias hein, qui nous a donné, qui nous a donné cette chanson.
De rien.
avant la pause, on parlait un peu du harcèlement, notamment aussi de la question du viol. Et durant la préparation, vous avez abordé le sujet du consentement. Donc je pense que c'est une bonne transition. Je voulais voir un peu avec vous, pour vous, c'est quoi le consentement, en fait? Comment est-ce que vous le définiriez?
Bah, le consentement, c'est quand tu as conscience de ce que tu vas faire. Par exemple, quelqu'un te demande de faire quelque chose, bah, si tu dis oui, bah, là, tu es consciente. Et si tu dis non, bah, c'est sans le consentement, on va dire. Et du coup, parce qu'il fait sans ton accord.
En soi, il y a beaucoup de cas où au début elles disent oui, ouais. Mais après quand ils voient que ça va vraiment se passer, ils disent non. Et il y a beaucoup de personnes de garçons ou parfois de filles qui vont se dire elle a dit oui au début, du coup elle doit assumer jusqu'au bout. Alors que non, ça fonctionne pas comme ça.
Je parle.
Non, pour moi, le consentement, c'est un accord que tu donnes à ton partenaire.
Mmh. Oui, Tobias.
Moi, pour moi, le consentement, c'est à partir du moment où les deux personnes ils sont d'accord. C'est comme un engagement. Comme Loana l'a dit, c'est quand les deux personnes elles sont conscientes de ce qu'ils font. Et voilà, c'est tout.
Mais donc, le consentement, est-ce qu'il peut évoluer aussi? Comme tu disais, Madi, une personne peut dire oui au début et puis non.
Ben oui. Ben, on a toujours le choix, en fait. Mais il y a beaucoup de personnes qui croient que, comme au début, comme je disais, c'est oui au début, mais à la fin, c'est non. Donc, voilà.
Les autres, vous êtes d'accord avec ça?
Oui.
Oui.
Et vous pensez que c'est toujours clair? Est-ce que vous pensez que c'est toujours facile aussi?
Non.
Non.
Parce que souvent, on dit oui parce qu'on se fait manipuler en mode mentalement, on va dire. Parce que, comme de filles, comme de garçons, on va dire. Moi, je vais parler pour de garçons parce que comme je suis une fille, du coup. Mais du coup, par exemple, le garçon, il peut me manipuler et me dire oui... mais je t'aime bien, etc. Je vais te marier, et tout vient, on le fait et tout. Et toi, comme t'es amoureuse et tout, tu vas tomber dedans. Et voilà.
Les autres, vous êtes d'accord?
Oui.
Ouais. C'est quoi les conséquences d'un non-consentement?
Le viol, du coup. Mm-hmm.
Les attouchements aussi. Par exemple, les attouchements, on n'en parle pas beaucoup, parce que c'est banalisé aussi dans la génération d'aujourd'hui. Parce que en mode, t'es avec ton partenaire, etc., il te touche, et souvent, il te demande pas s'il peut ou pas. Or que normalement, tu dois demander avant tout, parce que tu sais pas si la personne, elle veut ou pas. Parce que c'est pas, par exemple, au premier jour qu'ils vont se voir, que la personne, elle va directement te toucher. Ça veut dire que c'est bizarre. Donc, moi, je pense que les attouchements aussi, ça, c'est de plus en plus.
Et moi, je voudrais juste dire que c'est pas toujours les garçons qui vont le faire, hein, les filles aussi. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui croient que les filles sont innocentes dans cette génération, alors que pas du tout.
Donc, c'est vrai. C'est vrai.
C'est bien de rappeler que oui, effectivement, ça peut arriver à un homme comme à une, enfin, à une femme comme à un homme. Sabrine, tu voulais réagir? Non,
non, mais elle a raison en soi, parce que c'est autant les filles que les garçons, mais je pense que, je sais pas, ça se voit moins chez les filles, j'ai l'impression. Genre, on en parle beaucoup moins des filles que les garçons.
Mais parce que souvent, tu vas aller porter plainte contre ça, la police, elle va se dire, oui, c'est une fille, elle est forcément innocente, t'as plus de force qu'elle, alors qu'il y a des garçons, ils sont... C'est des personnes qui vont pas taper des femmes ou même les pousser comme ça, vu que c'est une femme. Et qu'après, on va lui dire, ouais, t'es pas un homme parce que t'as tapé une femme ou quoi. Ou que tu t'es défendu, ou plein de trucs comme ça, quoi.
Souvent, dans l'acte du viol, il y a aussi la drogue et tout ça. Genre, d'abord, il y a les menaces, puis y a, on te drogue, et après, il y a l'acte. Du coup, pendant qu'on te drogue, t'as pas, tu peux pas te défendre, parce que tu perds tes moyens.
Vous pensez que ça arrive toujours de cette manière?
Non, pas tout le temps. Par exemple, le viol, il y a plusieurs, plusieurs formes de... Enfin, de violer la personne, on va dire. Par exemple, je sais pas, par exemple, t'es en couple avec quelqu'un et tu crois tu le connais, entre guillemets, mais tu le connais pas. Parce qu'au fond, on connaît pas tout le monde, du coup. Mais du coup, par exemple, t'es en couple, etc., avec la personne, elle te dit, ouais, viens chez moi, etc. Par exemple, tu vas connaître ma mère et tout. On arrive chez la personne, il n'y a personne, il n'y a que lui et moi, du coup. Et du coup, il peut très bien t'enfermer dedans, dans la maison, et faire ce qu'il veut, on va dire. Et même, tu peux crier, frapper, faire tout ce que tu veux, mais il n'y aura jamais quelqu'un qui va t'entendre, principalement si c'est dans une maison qui est loin ou des trucs comme ça. Parce que nous, que ce soit des filles ou des garçons, si on lui dit, ouais, je vais te présenter à ma mère et tout, on va directement, qui n'y va pas? Genre, tu vas être présenté par la mère de la personne que t'aimes. Donc tu y vas directement. Et arrivé au moment là, tu pourras plus rien faire. Il va t'enfermer. Tu peux faire tout ce que tu veux. Tu vas jamais réussir. Genre que ça n'importe. Et le violeur, il a tout le temps un plan pour violer la personne. Ça veut dire que ça va pas être sur le moment. Genre ça veut dire qu'il va préparer tout un truc pour que... Genre il y aura pas de preuve contre lui, on va dire. par exemple, droguer la personne, ou alors, je sais pas moi, la violer et faire des menaces, comme quoi si elle ouvre sa bouche, il pourra faire des trucs pires, ou aller dire, ou je sais pas, inventer des trucs, aller dire à ses parents et tout, parce que il y a des filles qui ont leurs parents hyper stricts, comme pour les filles, comme pour les garçons. Donc, si la personne va et va dire à leurs parents, je sais pas, inventer quelque chose et dire à leurs parents, bah, c'est la fille qui aura tort ou le garçon. Ça veut dire le type qui a fait le viol, bah, il s'en fout, on va dire. Hein. Ouais, il sera juste là pour les menaces.
Sachant que la plupart des parents, ils vont plus croire les autres que leurs propres enfants.
Ah, c'est vrai.
Pourquoi ça? Oui, est-ce que vous pensez que c'est souvent comme ça? Que les parents ont tendance à plus croire les autres que leurs enfants?
Ouais. Parce que souvent, c'est souvent dû à un manque de confiance en leur enfant. Ou bien c'est parce que peut-être leurs enfants, ils ont fait trop de conneries et que forcément les parents, ils en ont eu marre et que à force de mentir et tout, il y a un manque de communication, manque de confiance, manque de tout, tout ce qui est dans le négatif. Et forcément, ça va pousser les parents à croire les plus croire les autres que leurs enfants.
Et même si par exemple ils sortent des preuves, etc. Par exemple, il peut très bien faire des fausses preuves, des trucs comme ça. Et même nos parents, par exemple, je sais pas, quelqu'un l'appelle, il lui dit ça. Je pense pas qu'il va nous croire directement, justement. Genre, il va dire, oui, c'est bizarre et tout ça. Il va commencer à croire la personne. Plus la personne va montrer des preuves et argumenter, bah, plus les parents vont croire la personne que leur fils.
Est-ce que vous pensez que dans le cas d'une agression sexuelle, c'est facile de donner des preuves?
Non. Non. Mais justement... Par exemple, je pense pas une personne elle va violer quand genre je pense pas à la personne qui viole, elle va pas le faire et juste laisser comme ça et attendre que la police vienne chez lui. Donc je pense qu'il y a tout un truc etc pour que il essaie de enlever les preuves possibles.
Mais en fait, la plupart du temps quand tu te fais violer quoi, tu vas pas dire le jour d'après aller chez la police. Mais en fait, c'est ce qu'il faut faire parce que de là en fait, un gynécologue il peut voir si tu t'es fait violer ou pas. Mais il y a beaucoup de personnes du coup qui ont peur des conséquences juste par après et qui vont porter plainte 2 mois après, voire 3 mois après.
Mmh. Lynn, tu voulais réagir?
Il y a aussi les menaces pour aller porter plainte. Donc par exemple, si tu vas porter plainte, tu vas voir ce qui va arriver et tous les trucs comme ça. Et il y a aussi les vidéos. Souvent, ce que j'entends dire... pendant le viol, ils sont en train de filmer. Et il dit, si tu portes plainte, cette vidéo, je vais la faire tourner à toute l'école.
Et aussi, comme Madjie l'a dit sur, par rapport à les gens qui se font violer, ils ne vont pas aller le lendemain, justement, porter plainte, parce qu'il y a les traumatismes, du coup. Parce que tu es sur le moment, tu es là en mode, je viens de me faire violer. Genre en mode principalement une personne qui est vierge et qui veut attendre le mariage et tout par rapport aux religions ou n'importe, bah elle est là en mode ouais, je viens de me faire violer, donc elle va être, il y aura les traumatismes où elle va rester, elle voudra en parler à personne justement, et du coup c'est juste avec le temps etc que je sais pas, peut-être qu'elle en parlera, et même il y en a des personnes qui n'en parlent pas.
Est-ce que vous pensez qu'on peut en avoir honte en fait?
Oui. Tu te sens sale parce que tu te dis oui, il y a un type qui vient de me faire violer. En mode, tu te sens... Genre, tu t'es dégoûté de toi-même. En mode, je sais pas expliquer, mais... En mode, il n'y a pas de réaction. T'es là en mode, ouais, je dégoûte. Genre, voilà.
Ou sinon, quand t'essaies d'en parler, ben, la personne, elle va pas te croire. Par exemple, si c'est ton beau-père ou ton père ou des trucs comme ça, et que tu vas en parler à ta mère, elle va se dire, non, c'est pas possible, etc. Mais en fait, elle voit pas.
En fait, moi, je pense que ça dépend des mères aussi. Par exemple, moi, ma mère, si un jour... Enfin, je ne dis pas que ça m'arrive, hein, mais si, par exemple, un jour, ça m'arrive et tout, et j'en parle à ma mère, elle va me croire à moi. Parce qu'en fait, moi et ma mère, on est hyper proches. Justement, il faut avoir de la communication avec ses parents et avoir de la confiance envers sa fille, etc. Genre, ma mère, elle est stricte, etc., mais elle a confiance en moi. En mode, si je lui dis un jour... Parce que ma mère aussi, elle a déjà vécu ça. Donc... truc de viol et tout. Donc, elle sait que si je l'en parlerai, elle comprendra directement.
Est-ce que vous savez où... Est-ce que vous savez où est-ce que vous pourriez aller d'autre si jamais dans le cas dans le cas où vos parents ne sont pas réceptifs à ce que vous racontez.
Je sais qu'il y a un service, mais je connais plus le nom.
Et même je pense pas qu'on va aller directement au service. Hein. Je pense qu'on en parlera à la personne, l'ami le plus proche. Même si des fois faut faire attention et tout à qui tu dis ça, parce que c'est pas une information en mode tu dis un truc banal. Là c'est vraiment un truc grave. Ça veut dire la personne peut-être qu'elle va en parler à plus de gens. Etc. Mais je pense là, par exemple, je sais pas, si ce serait moi, je pense que j'en parlerais à ma copine la plus proche.
Ben oui, c'est important en tout cas que vous sachiez, parce que moi ce qui m'interpellait dans ce que vous disiez, c'est que finalement on avait l'impression qu'il n'y a pas beaucoup d'endroits de recours, parce que la police, comme vous disiez, ben, des fois la police ça peut être banalisé, il n'y a pas, c'est classé sans suite. Vous disiez des fois dans la famille, ben on va pas nous croire parce que les communications avec les parents peuvent être compliquées, et du coup ça laissait la place. À qui s'adresser du coup ? C'est moi ça qui m'interpellait un peu, parce qu'il y a des services en dehors de la famille ou en dehors de la police, tels que les nôtres aussi, la MO, mais il y a aussi des services qui sont beaucoup plus spécialisés dans tout ce qui est des violences sexuelles, qui sont aussi accessibles. Quand on n'a pas d'autres personnes à parler, c'est important de savoir, de l'avoir d'avoir en tête, quoi.
Mais en fait, vous voyez, par exemple, parler, etc., en parler, moi je trouve, par exemple, n'importe que ce soit un service en global, le temps que t'en parles, le temps que les choses arrivent, bah, le violeur, les menaces, etc., bah, je sais pas expliquer, genre, il peut trouver, même si, par exemple, sur le téléphone, ou que ça soit n'importe quoi, il peut trouver un moyen de venir et te donner des menaces fortes. Et du coup, qui va la protéger ? Il y aura personne pour la protéger. Genre, la police, elle sert à rien. Et les personnes des services, bah, ils habitent pas avec elle, donc ça veut dire, il y a qui va la protéger ? Personne.
Juste pour répondre à Loana quand même, pour dire qu'il y a des services qui t'accompagnent là-dedans. C'est pas juste tu vas parler et puis tu restes toute seule avec tes problèmes. C'est à partir du moment où tu en parles à un service tel qu'un centre de prévention spécialisée ou une AMO, le but c'est de t'accompagner là-dedans, t'accompagner si tu veux, porter plainte même s'il peut y avoir prescription entre guillemets, t'accompagner par rapport à si tu as besoin d'une protection, si tu dois être enlevé, isolé, d'aller partir de chez toi pendant un temps pour être protégé. Il y a vraiment tout un dispositif qui se met autour de la personne aussi. C'est pas juste en parler et puis tu restes avec...
Mais en fait, j'ai l'impression, à part porter plainte, ce qui est souvent classé sans suite, on a beau en parler, mais j'ai l'impression que ça va rien arranger. Genre juste sortir ce qu'on a au fond de nous, mais à côté, ça n'arrange rien.
Est-ce que le fait de sortir les paroles, ça n'a vraiment aucun impact ?
Mais moi, je pense que parler, c'est bien, etc. Ça va t'enlever un poids, mais ça va jamais effacer ce qui s'est passé. Ça veut dire que tu peux en parler autant que tu veux, hein. Mais le traumatisme, il ne va pas partir. T'auras toujours ça en tête.
Bon, je propose qu'on fasse une pause avant d'entamer la dernière partie d'émission. Et on va mettre Ghetto Phénomène Malion. À tout de suite.
On s'en ira, je te le répète, on y arrivera. se bat pour le meilleur. Je suis sans lien, c'est ma lien. Je pense à elle et mes erreurs. Et loin on s'en ira, on s'en ira. Je te le dis, on y arrivera, on s'en ira, on s'en ira. Je te le répète, on y arrivera.
Voilà pour cette dernière partie d'émission. Donc juste avant la pause, nous parlions donc du consentement, des conséquences aussi, mais qu'est-ce qu'on peut en, comment peut-on en parler, etc. Ici, maintenant, j'aimerais bien relancer pour cette dernière thématique la question. Est-ce que vous pensez que le consentement et l'amour, ça peut être lié ou c'est lié?
Oui.
Oui. C'est-à-dire?
Pour moi, tu peux dire oui. Pas forcément parce que tu veux, mais par amour.
Par peur de perdre la personne, en fait.
Oui, si. Mm-hmm. Mm-hmm. Parce que tu te dis, oui, c'est gênant, il va partir. Parce que en fait, il y a des personnes qui sont là que pour ça, on va dire. Mais pas tous, mais il y en a, ils sont. Et du coup, bah, la personne... Parce que dans un couple, si les deux s'aiment vraiment, ça peut fonctionner. Mais si on a un... Qui est là que pour, par exemple, faire des choses, que par intérêt, on va dire, ça ne va pas fonctionner. Parce que justement, il n'y en a qu'un qui aime bien et l'autre pas. Ça veut dire qu'il y aura juste toujours cette chose de manipulation, on va dire. Donc, et la peur de perdre la personne que tu aimes.
Et est-ce que vous pensez que... Comment est-ce que vous, les jeunes, vous ressentez l'amour actuellement? Est-ce que vous trouvez que c'était différent? Est-ce que c'est différent maintenant qu'avant ou...
Pour moi, pour nous les jeunes, on a une vision de l'amour qui est différente.
Oui, comment?
Et que par rapport à l'ancienne génération, la génération de nos parents, tout, c'est vraiment différent. C'est différent, ça se voit de ouf.
Et comment est-ce que ça se voit?
Déjà, nos parents, eux tu sais voir que les deux s'aiment. Tu sais voir que les deux s'aiment, alors que dans notre génération, il y a des couples où c'est genre en mode c'est toxique. C'est genre en mode, il n'y a pas de communication, il n'y a pas d'amour. Il y en a, ils sont là que pour faire des choses. Et c'est bizarre. Mmh. C'est différent de fou. Mmh.
Les autres, vous êtes d'accord avec ça?
Oui. Ouais. Moi, je pense que, enfin, on va dire, du coup, comme Tobias l'a dit, dans l'époque avant de nos parents, etc., il y avait plus de... en fait, c'était plus, je sais pas expliquer, aventurier, mais en mode tu découvrais un truc. Genre, t'étais heureux. Genre, t'étais là en mode, ouais, c'est l'amour et tout. Or que là, maintenant, genre, en mode, tu peux très bien parler avec une personne que t'aimes bien et tout, mais tu sais pas si la personne, elle t'aime bien pour de vrai.
C'est devenu difficile.
Mm-hmm. Ouais. C'est devenu difficile de trouver la bonne personne. Parce que dans notre génération, on est là à se mettre en couple. À tout le temps, on va dire. Ça veut dire qu'il y a une personne que t'aimes bien, la personne va te demander, ouais, viens, on se met en couple, tu vas dire oui directement. Or que ça ne fonctionne pas comme ça, on va dire.
Ça se fait naturellement.
Ok, donc vous dites que vous mettez facilement en couple, mais alors est-ce qu'à l'inverse, vous ne vous séparez pas facilement aussi de votre
partenaire? Aussi. Très facilement.
Il y a des couples qui durent une semaine, même pas. Genre vraiment, genre comme ça, vous comprenez les couples d'aujourd'hui, de cette génération. Genre tu te mets en couple une semaine, après tu te disputes et tu te sépares et point final, il n'y a plus rien. Et après, c'est next, la prochaine personne qui arrive.
Non, mais en fait, je pense qu'on ne se met pas en couple pour être en couple. Enfin, on se met en couple pour être en couple et surtout avoir de la dépendance affective pour certains.
Ouais. En fait, on se met en couple pour être en couple. Genre pour dire, ouais, je suis en couple. Et justement, pour avoir, par exemple, les personnes qui n'ont pas, je sais pas, qui n'ont pas eu de l'amour, etc. Mmh. Par exemple, que ça vienne du père ou des trucs comme ça, par exemple. On va dire, je ne sais pas. Genre en mode, par exemple... Je vais parler en moi, parce que ça ne me dérange pas. Mais moi, par exemple, moi et mon père, on a eu une relation très difficile. Ça veut dire, moi, jamais une relation père et fille. Mm-hmm. Ça veut dire, moi, à cette époque-là, je cherchais de l'amour affectif de garçon. Mm-hmm. Je sais que ce n'est pas une excuse, mais sur le moment même, tu ne cherches pas à comprendre. Mm-hmm. Tu te dis, ouais, lui, il m'aime bien, donc c'est lui. Or que ce n'est pas comme ça. Tu ne sais pas si tu aimes vraiment ou pas. Et après, tu peux en souffrir pire, genre, voilà.
Et est-ce que l'amour, ça passe pas par soi-même aussi?
Si.
Si.
Est-ce que vous pensez que peut-être, oui, effectivement, le fait de se mettre trop facilement en couple, c'est aussi parce que c'est une manière de se valoriser, un peu comme tu disais, Loana.
Aujourd'hui, dans cette génération, quand tu marches dans la rue, bah, les garçons, ils aiment trop demander leur, le snap des filles. Enfin, je ne généralise pas, des filles aussi demandent. Hein. Mmh. Mais c'est plus... En fait, c'est plus rare. Là, c'est vrai. Là, c'est plus rare qu'une fille va demander le snap à un garçon que le garçon va demander. Parce que, en mode... en fait, c'est mal vu. Enfin, c'est pas mal... Ouais, en fait, dans cette génération... C'est pas que c'est mal vu, mais c'est bizarre, on va dire, qu'une fille va demander le snap à un garçon. Genre, c'est... Ah, bah... Genre, on va dire, si par exemple, le garçon, hein, une fille va demander le snap à un garçon, le garçon va se dire, ouais, celle-là, elle aime bien, elle est chaude, on va dire. Alors que si c'est un garçon, genre, la fille, elle va accepter, etc. Ça veut dire que quand t'es en couple, tu peux directement dire, ouais, je suis en couple, donc c'est...
Mm-hmm. C'est une manière de se protéger aussi.
Mm-hmm. Ouais.
Okay.
Non, mais il y en a après, ils vont quand même forcer, ils vont ouais, dire, ouais, t'es une pute, ou je sais pas quoi, des trucs comme ça, quoi.
Ouais, voilà. Bah, du coup, le mot pute, très facilement.
Et vous entendez souvent ça dans la bouche de, des autres, que les femmes sont des putes ?
Oui, ouais. Partout.
Est-ce que ce n'est que les garçons qui véhiculent des fois ces idées ?
Non, mais les filles aussi.
Les
elles...
filles aussi.
Ouais.
Mais c'est plus, moi pour moi, de ce que j'ai vécu, pour moi, c'est plus les filles qui insultent d'autres filles de putes. Parce que moi, c'est, pour moi, dans mon entourage, c'est rare que j'entende un garçon insulter une fille de pute. Nous, on n'est pas comme ça. Enfin, dans mon entourage, on n'est pas comme ça. Ouais, dans mon entourage, on n'est pas comme ça.
Oui, c'est ce qu'on disait en début d'émission. Ben Joe, oui. Tu voulais dire quelque chose.
Moi, je voulais vous dire, qu'est-ce que vous pensez, vous, de ça Pourquoi, quand il s'agit d'une fille, comme tu disais, justement, quand une fille va demander le snap d'un garçon, alors que ça pourrait être juste pour faire amitié, en fait, apprendre à se connaître, à se découvrir, sans avoir d'intention derrière, et même s'il y avait intention derrière, j'ai envie de dire. Pourquoi, quand une fille fait cette démarche-là, automatiquement, elle va être, elle va avoir une réputation, une mauvaise réputation. Et pour un garçon, ça passe en fait sans problème. Et vous disiez que les filles aussi vécu ces idées-là. Est-ce qu'il n'y aurait pas une un regard à changer sur là-dessus ? Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous.
Bah, ça doit changer, mais il n'y a personne qui change. Genre, en fait, c'est facile de dire, mais dans cette génération-là, on peut dire, ouais, on va changer, on va changer. Il n'y a rien qui change. Ça veut dire, on peut dire, ouais, on va arrêter de juger, on n'y a jamais, genre comme les filles, comme des garçons. Donc, et par rapport aux filles, mais les filles, c'est en mode, je sais pas, dans la génération, c'est moche, on va dire ça. Une fille faire ça. Genre, c'est comme on avait déjà parlé par rapport à l'égalité homme-femme. Il n'y aura jamais. Ça veut dire, pour une fille, pour la génération de maintenant, une fille, ça doit être innocente. Et une fille qui, bah, qui, je sais pas, qui est discrète, qui ne fait pas des bails, qui est là juste comme ça.
Ça doit rester à sa place.
Oui, voilà, une petite jeune fille. Or que je peux vous dire qu'il n'y a pas que ça.
Bah, pourtant, on parle, enfin, tu parles de l'égalité homme-femme, ça a quand même déjà beaucoup évolué, contrairement à l'époque.
Oui, ça a beaucoup évolué. Ça a évolué, mais ça ne s'arrêtera jamais. Voilà.
Vous ne pensez pas que votre génération, elle peut infuser ça aussi ? Vous ne pensez pas qu'à chaque fois, bah, les avancées qu'on a pu avoir ici par rapport aux droits des femmes, par rapport à l'égalité hommes-femmes, elles viennent aussi du fait que des générations précédentes et avant elles encore à chaque fois, mais se sont à un moment donné prononcées, levées pour dire mais non, on veut que ça change en fait, on en a marre d'avoir toujours cette idée qui colle, on en a marre d'avoir l'idée de la femme au foyer qui est cantonnée à s'occuper des enfants, à faire le ménage. Est-ce que vous n'avez pas envie d'être la génération qui va incarner ce changement, en fait, même si vous vivez encore ces difficultés
Mais en fait c'est difficile parce que dans comment ça s'appelle ? Dans certaines cultures, par exemple dans la culture des gitans, la femme elle sera toujours au foyer. Genre pour eux, c'est normal qu'une femme soit au foyer et que ça soit l'homme qui fasse tout à sa place. Donc voilà. Donc ça va être difficile de changer les gens là maintenant si dans certains pays, depuis des générations et des générations, c'est comme ça.
Moi, personnellement, je vois pas le problème qu'une femme aille au foyer. Genre, c'est pas un problème. C'est dans leur culture, c'est bien. Ben, en Afrique, la plupart des femmes sont au foyer, mais c'est pas un problème quoi. C'est normal. Moi, personnellement, je vois pas le problème à être femme au foyer.
Donc, toi, tu pourrais être femme au foyer ?
Moi, ça me dérangerait pas. Mais après, tu fais ce que tu veux maintenant, tu fais ce que tu veux. Tu peux être femme au foyer ou pas. Bah, même si tu veux être femme au foyer, bah, c'est quoi le problème ? Y a rien. Parce qu'il y en a, ils voient un problème à ce que la femme, elle travaille pas. Mais si tu veux pas travailler, tu travailles pas, tu restes à la maison. C'est pas un problème, quoi.
Mais il y en a, c'est pas eux qui ont décidé de pas travailler. C'est par obligation. Donc.
En fait, je pense que ça dépend des choix des personnes, en fait, justement. Mm-hmm. parce que genre en mode de, tu peux choisir, justement maintenant nous les femmes on peut choisir si on veut travailler ou on veut pas travailler. Mais du coup comme Rifia elle a dit, bah elle ça lui dérangerait pas d'être femme au foyer. Et du coup bah on est là, on se respecte tous justement. Mais moi par exemple, moi je pourrais pas être femme au foyer. Moi j'ai besoin de bouger. Moi j'ai besoin par exemple, moi je suis comme ça, j'arrive pas, genre par exemple on est en classe, moi j'arrive pas à rester assise, je dois tout le temps parler ou me bouger parce que moi je suis comme ça. Ça veut dire moi je pourrais pas être femme au foyer, rester dans ma maison, moi je dois sortir et faire des trucs.
C'est bien ce que vous disiez finalement, c'est la question d'avoir le choix, c'est ça. Et c'est de chacun puisse décider en fait que, comment dire, quelle forme il veut que son couple prenne quoi, et quel rôle il a envie de prendre dans son couple. Ouais, voilà. C'est ça qui serait plus important.
Avant de clôturer cette émission, je veux vous poser une dernière question, c'est quelle serait votre vision justement du futur ?
Par rapport à notre vie ?
Moi, je travaillerais, mais juste comme j'avais expliqué, le début, quand je suis bien financièrement et que j'ai un enfant, je serai femme au foyer jusqu'à quand il rentre en troisième maternelle. Et après ça, ben, je recommence à travailler.
Moi, dans le futur, je ne me vois pas père au foyer. Parce que pour moi, si je suis père au foyer, j'aurai une image de père incapable, qui sait rien faire, qui est là, qui a resté assis devant le canapé et tout. Et ben, je me verrais, ouais, bosseur, travailler et tout pour subvenir aux besoins de mes enfants, aux besoins de ma femme, et pour revivre dans une, je sais pas si c'est dans une bonne harmonie, comment dire, ouais. Et voilà.
Moi, bah, moi, je me vois en mode, moi déjà, je pourrais pas me marier avec un type qui travaille pas. Ça, je pourrais pas. Genre, je pourrais pas. Un homme au foyer, c'est comme Tobias l'a dit. Genre, je sais pas, on dirait il a rien fait de sa vie, on va dire. Et je juge pas les gens qui sont pères au foyer. Hein.
Est-ce que être père au foyer, pardon, ça n'implique pas aussi de prendre soin de sa famille? Enfin, des enfants
si. Oui, je sais bien, mais en mode moi, j'aimerais bien un homme qui travaille, qui bosse vraiment. Genre en mode, voilà, comme moi, je me vois pas femme au foyer. Et j'ai pas envie de l'être. Ça veut dire moi, je vais tout faire pour pas être femme au foyer. Moi, je veux pas. Moi, j'ai envie d'être une femme qui travaille. Et j'aimerais bien que mon mari aussi travaille pour que nous deux, on puisse faire une bonne vie pour nos enfants et donner tout ce qu'ils veulent. Genre que nos enfants soient bien, genre en mode... qu'il n'y ait pas de problème par rapport à l'argent, etc.
Merci, c'est la fin de cette émission.
On va lancer une dernière musique, pardon. Rimka, je crois que c'est comme ça que ça se prononce.
Rimka.
Rimka. Rimka ? Ah ouais, confiance. Merci à tous.
C'est plus qu'une histoire de love. C'est plus qu'une histoire de love. Dis que je suis un monstre, je fais aucun effort. Après ma mère, j'ai un cœur énorme. Elle m'ignorait ses ailes dans la chambre. Je trouve plus les mots, il me faut un cheat code. Elle et moi, c'est plus qu'une histoire de love. Pour nous séparer, il n'y a que la mort. Dans mes bras, je la serre fort. Je la protège car la vie est comme une folle. Ses yeux éclairés par les lumières de la nuit. Moi, j'avoue, je souris jamais sur les selfies. Besoin de sincérité, pas de fausses promesses. J'ai fait de mon cœur une forteresse. Fais le tour de la planète, je la laisse conduire et je mets du chalet. Et je me mets à planer. Elle m'a donné sa confiance, elle me parle avec sincérité. Elle m'a toujours soutenu, même quand je dis pas la vérité. C'est plus qu'une histoire de love, c'est plus qu'une histoire de love. Dans mes bras, je la serre fort, dans mes bras, je la serre fort. Elle me sourit dès le réveil. Mais pour mes symptômes, aucun remède. On se complète comme la glace et le feu. Comme un pack panthère et un coup de feu. Je lui ai fait de la peine. Elle veut plus répondre à mes appels. Je balaye mon orgueil avec un je t'aime, je t'aime. Je vais t'emmener loin de la zone. Je sais pas danser comme Jackson. Mais la nuit, je fais des drifts sur l'avenue. Je pilote comme personne. On s'est dit nous deux, c'était pour la vie. Je fais comme si c'était la dernière nuit. Car toutes les plus belles histoires d'amour ont mal fini. Elle m'a donné sa confiance, elle me parle avec sincérité.